Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Thierry Ndiaye.
Bonjour à toutes et à tous. Stress, surmenage, anxiété, phobie, dépression, fragilité, ce sont des troubles qui font partie du quotidien de nombreuses personnes, mais la majorité de la population les occulte. Une personne sur cinq souffre ou a souffert de troubles psychiques. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression, soit une augmentation de plus de 18% de 2005 à 2015. Il est pourtant clairement établi que beaucoup de choses peuvent être faites pour limiter les risques de troubles psychologiques par ignorance, par déni, difficulté d'accès aux soins ou encore par négligence. La population n'a pas forcément le réflexe de solliciter une aide médicale. Comment gérer le stress lié à une activité ou une vie professionnelle intense? Comment repérer et soigner soi-même ces troubles? Avec moi pour en parler, un psychiatre, professeur Antoine Pellissolo. Il est le chef de service à l'hôpital Henri Mondor et professeur de médecine à l'université Paris Est Créteil, auteur de l'ouvrage « Vous êtes votre meilleur psy » aux éditions Flammarion. En deuxième partie de Priorité Santé, nous retrouverons au Cameroun Dr Félicien Ntoné, psychiatre et pédopsychiatre au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. En fin d'émission, nous évoquerons un thème d'actualité, l'utilisation du glyphosate. L'association Alerte des médecins sur les pesticides fait partie des organisations du monde médical appelant à l'interdiction de cet herbicide. Et n'hésitez pas à nous appeler le numéro de Priorité Santé, 33 1 84 22 75 75. Professeur Antoine Pellissolo, bonjour.
Bonjour. Pardon.
Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Vous êtes votre meilleur psy ». À qui s'adresse cet ouvrage?
Pardon, excusez-moi. A priori, à tous ceux qui ont des difficultés de comportement ou d'émotions qui peuvent paraître banales au départ, mais qui ont tendance à pourrir un peu la vie au quotidien. Donc c'est notamment des problèmes de phobie, de stress excessif, de perte de morale, enfin des choses qui sont très fréquentes dans la population, mais pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience sur le moment, mais sur lequel on peut travailler par soi-même.
Alors selon vous, il ne s'agit pas de transformer tout le monde en expert en psychiatrie, hein, mais d'avoir des bases utiles pour identifier certains signes. Mais ce n'est pas évident hein, quand même. Comment avouer que quelque chose ne va pas? Les gens peuvent être dans le déni, la culpabilité, voire même la honte quand justement quelque chose tourne mal. Alors comment on fait pour repérer ces signes?
Alors justement, l'objectif de ce livre, c'est vraiment d'expliquer qu'on est tous concernés, plus ou moins, et qu'il n'y a pas à avoir honte de quelque chose qui est quasiment dans la nature humaine. Ces problèmes-là sont des problèmes naturels, sur lesquels en général... Je suis désolé, ça va revenir. Sur lequel, en général, on a pris des mauvaises habitudes. On est tombé dans des pièges, un peu de comportement répétitif, par exemple. Et le fait déjà de savoir que ça existe, qu'on n'est pas les seuls concernés, qu'on peut comprendre un peu comment ça se passe et comment on fonctionne, souvent, c'est une première étape pour essayer de changer. Et le but, c'est effectivement de changer sur le long terme. Pas d'avoir des méthodes miracles, hein, comme ça, malheureusement, ça ne marche pas. Mais au moins de comprendre comment on fonctionne et comment on peut avoir des clés pour résoudre ces difficultés.
Et vous avez justement les 28 difficultés psychologiques et ou comportementales, comme la peur de l'avion, l'insomnie, la timidité. Mais professeur, parlons du stress, par exemple. Ça peut concerner tout le monde, on l'a dit tout à l'heure. Les gens ont parfois une vie familiale intense, un travail qui prend beaucoup de temps, une scolarité qui est prenante. C'est quoi ce stress qui nous semble si familier, finalement?
Alors le stress, c'est vraiment la condition humaine aussi face à des situations incertaines et surtout qu'on ne contrôle pas. Et l'organisme est fait pour essayer d'anticiper les problèmes, pour les régler du mieux possible. Et malheureusement, certains d'entre nous, c'est à peu près la moitié de la population en moyenne, quand on estime ça, a tendance à anticiper trop les choses. C'est-à-dire à faire comme si on pouvait régler les problèmes avant qu'ils ne surviennent, probablement par anxiété, hein, c'est une tendance de la personnalité de certains. Et malheureusement, se mettre la pression supplémentaire quand on a déjà des pressions dans la vie quotidienne, c'est infaisable. Donc souvent, le stress, c'est trop de choses en même temps, pas les moyens d'agir dessus et de vouloir tout régler en même temps, en général.
Vous avez évoqué à l'instant l'anxiété. Est-ce que l'anxiété et le stress, ce sont finalement deux choses distinctes? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu... pareil.
Oui, l'anxiété, c'est un produit dérivé, on va dire, du stress et de la peur. Le système de la peur, c'est vraiment un système essentiel à la survie pour éviter des dangers réels. Le stress, c'est en fait cette tendance naturelle qu'on a à surveiller les choses. Et quand ça se mélange, ça fait de l'anxiété. C'est-à-dire, l'anxiété, c'est du stress plus des cogitations, des projections dans le temps. Et c'est vrai que, bon, je disais, à peu près la moitié des gens se sentent stressés ou trop anxieux, parce que c'est vraiment dans... Au départ, c'est quelque chose d'utile, hein, d'essayer de se méfier des dangers. Malheureusement, il y a des situations sur lesquelles on peut rien faire et continuer à cogiter sur des situations qu'on ne va pas régler sur le moment, c'est inutile et ça fait perdre de l'énergie en général et surtout perdre le moral. Il y a un moment où on finit par s'épuiser, par impuissance en général.
Alors, a priori, à bonne dose, le stress est un dopage naturel pour nous rendre plus réactifs, plus efficaces, plus attentifs mentalement et même physiquement, comme vous venez de l'expliquer. Et que se passe-t-il dans notre corps lorsqu'un pic de stress se produit? Peut-être qu'en nous expliquant les manifestations physiques, on pourrait comprendre davantage qu'on est stressé.
Voilà. Alors pour certaines personnes, d'ailleurs, les manifestations physiques sont au premier plan. Il y a des différences comme ça d'une personne à l'autre. Certains sont plus des mentaux, on va dire, des cérébraux, et puis d'autres, c'est plutôt dans le corps. Alors ce qui se passe, c'est simplement que le cerveau sécrète au moins deux substances différentes qui permettent de mieux réagir face au danger. C'est l'adrénaline d'un côté et la cortisone ou un dérivé de la cortisone de l'autre. Alors l'adrénaline, ça dope, ça donne de l'énergie, ça donne de la tension aussi, ça permet d'être vraiment sur le qui-vive et notamment au niveau attentionnel. Mais au bout d'un certain temps, c'est trop. Quand on est en stimulation permanente, c'est là que ça devient dangereux. Et le cortisol, c'est fait pour en général mieux résister, par exemple, à la douleur. Sauf que là aussi, il y a des effets secondaires et on les voit au fur et à mesure quand le stress devient trop long. Un bon stress, c'est un stress qui dure pas trop longtemps, qui est adapté à une situation donnée et qui va ensuite revenir à la normale quand on sera dans une situation plus calme.
Justement, autrement dit, le stress se déclenche pour nous protéger, mais en même temps, il ne faut pas qu'il se manifeste constamment. Finalement, comment on décèle le bon et le mauvais stress? Parce que peut-être qu'on ne connaît pas cette bonne dose finalement. Comment on fait pour...
En général, de toute façon, on n'a pas le moyen de le doser soi-même, mais au moins de comprendre à quel moment c'est effectivement trop en termes de durée surtout. L'image souvent qui me vient, celle que j'ai prise là, c'est un peu comme la fatigue. Quand on est en suractivité, à un moment on est fatigué, on a besoin de se reposer. Et c'est pareil pour le stress, quand on est en tension permanente, il faut qu'à un moment donné, on récupère. Et donc ça, c'est souvent ce qui se passe d'habitude. Quand on va bien, on récupère le soir, on récupère la nuit, on arrive à dormir. Quand on est stressé, on n'arrive même plus à dormir à cause du stress. Et donc ça amplifie la vulnérabilité, parce qu'un organisme qui est fatigué, qui ne peut pas récupérer, et un organisme qui se défend moins bien contre plein de choses, notamment même des aspects physiques, hein, ou médicaux. On est plus sensible aux infections, aux allergies, enfin des choses comme ça. Donc c'est une des répercussions possibles, mais aussi au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'on a la tête envahie de craintes et aussi cette impression d'impuissance, hein, et c'est ça qui souvent peut aller jusqu'à la dépression parfois, parce qu'on se sent impuissant, dépassé par des choses qui ne sont au départ souvent que des anticipations un peu virtuelles, parce que le propre du stress, c'est, je vous disais tout à l'heure, de créer des problèmes qui n'existent pas forcément, ou en tout cas qu'on ne peut pas régler sur le moment.
Donc il n'y a pas forcément de fréquence raisonnable, mais vous parliez tout à l'heure de conséquences, donc ça veut dire qu'il y a un moment donné où le corps va nous dire stop, attention, il y a trop de stress, et ça se manifeste par quel type de trouble? Vous parliez tout à l'heure de d'ulcères, de problèmes...
Ça peut être plein de choses selon les personnes, mais c'est tout ce qui est lié au système un peu immunitaire et au système cardiovasculaire. Donc les conséquences, c'est par exemple une sensibilité à la fatigue, des douleurs, c'est souvent aussi ça pour certaines personnes, mal au ventre par exemple, c'est souvent la polarité. Ça peut être aussi d'être irritable avec les autres, de ne pas pouvoir réguler ses émotions correctement. Donc en fait, tout ce qui pose problème, soit pour soi, soit pour nos rapports aux autres, et pour sa santé. Donc en fait, c'est pas pour rien que le stress favorise énormément de problèmes psychiques et médicaux.
Ce stress est finalement un peu complexe. On va essayer de décrypter tout ça au cours de l'émission. On va prendre un de nos auditeurs qui nous appelle en ligne de Bamako, au Mali. Mamadou, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes les auditeurs d'Europe.
Bonjour Mamadou, on vous écoute.
En fait, moi mon problème c'est que je situe au niveau de l'insomnie. Par mois, ça peut m'arriver deux fois de ne pas m'endormir toute la nuit. Moi le problème, je l'ai situé parce que j'écoute trop de la musique. La radio, j'écoute la radio à des heures tardives. Mais, du coup, c'est devenu comme un résine stress pour moi.
Alors, Mamadou, vous avez le sentiment qu'écouter la musique vous stresse et vous empêche de dormir en même temps?
Non, c'est... J'écoute très de la musique et souvent même... J'ai du mal à faire mon boulot à cause du musique parce que tout le temps l'écouteur est sur les oreilles. Et puis.
Alors, professeur. Oui, on vous entend, Mamadou. Professeur, dans votre livre, on apprend justement qu'on peut aussi gérer les crises d'insomnie, pas besoin de somnifères. Cette insomnie, comment on la gère sans avoir recours à la médication, comme Mamadou espère avoir une réponse.
Alors là, je pense que Mamadou explique bien deux choses qui arrivent souvent surtout dans notre société où on peut avoir accès à plein de sollicitations, de distractions, et là, ça peut être la musique. Moi, je vois beaucoup de jeunes, par exemple, autour de chez nous maintenant. C'est les écrans, la télé, Internet, etc. Et donc, plus on cherche un petit peu une solution de distraction dans ces outils-là, plus on a tendance notamment à décaler son sommeil. Et certaines personnes se couchent à 2h, 3h, 4h du matin parce qu'elles ont une occupation qui, sur le moment, les satisfait, mais qui est malheureusement une espèce de mauvaise habitude qui décale les horaires. Et une fois que le sommeil est décalé, on a de plus en plus de mal à dormir à l'heure normal. Et puis, la deuxième source d'insomnie, c'est le fait d'avoir peur de mal dormir. C'est une insomnie un peu spéciale parce que quand on veut se forcer à dormir, on n'y arrive pas. Quand on a peur de mal dormir, on dort mal. Et donc, ça devient un cercle vicieux. Donc, la première chose à faire, c'est souvent d'accepter que parfois, on ne va pas s'endormir tout de suite, qu'on va mettre un certain temps et que ce n'est pas grave en soi. Parce que sinon, en fait, on augmente son niveau de stress à cause du fait de ne pas bien dormir. Et après, la solution principale pour faire face à ces insomnies, c'est vraiment arriver à lâcher prise, comme on dit. On peut pas dormir si on pense trop ou si on est sur le qui-vive. Et donc, la bonne manière théoriquement d'y arriver, c'est quelque chose qui ressemble à la relaxation. Bon, maintenant, il y a plusieurs formes, la sophrologie, la méditation, enfin, pour répondre un peu aux besoins de chacun. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'arriver à enlever de la tête tout ce qui tourne en boucle et qui sert à rien en général, pour se focaliser en général sur son corps, sur sa respiration, et sans vouloir à tout prix obtenir le sommeil tout de suite. C'est ça un peu le paradoxe. Quand on veut dormir, il vaut mieux et ne pas penser à dormir.
C'est un petit peu difficile, mais du coup, dans le cas de Mamadou, il combine insomnie et stress. Ça va souvent ensemble, finalement.
Oui, c'est un des symptômes habituels, parce que, je vous disais, pour dormir, il faut pouvoir lâcher prise. Et dans le stress, on est en hypervigilance. Donc, hypervigilance, c'est incompatible avec le sommeil. Et donc, c'est un des symptômes très classiques. Et c'est un des motifs, par exemple, vous disiez, de consommation d'anxiolytiques ou de médicaments pour le sommeil, les hypnotiques, qui sont, sur le moment, la solution un petit peu facile, parce que parfois, ça endort bien, effectivement. Mais malheureusement, c'est artificiel et surtout ça marche quelques jours et puis au bout d'un certain temps ça marche moins bien, on a tendance à en prendre trop et ça devient un piège en soi-même. Donc il faut à tout prix, pour ces problèmes-là, avoir des recours plutôt naturels, plutôt par des choses qui passent par la psychologie ou encore une fois la relaxation qui est un bon outil.
Mamadou, est-ce que le professeur Pilisolo a répondu à votre question?
Oui, je prends note quoi, je prends note.
Entendu.
T'as bien retrouvé.
Entendu, Mamadou. Bonne journée à vous, Mamadou. On va prendre un autre auditeur en ligne qui nous appelle, lui, de Conakry. Conakry en Guinée. Aboubacar, on vous écoute.
Allô?
Allô, bonjour Aboubacar.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute.
Eh bien, j'ai 25 ans et je suis très nerveux. Très nerveux, je ne sais pas comment gérer ma nervosité. Plus je suis seul, plus ma nervosité s'augmente. Et je suis fracturé du plateau tibial. Et le stress, c'est le stress qui me fatigue beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas quelles sont les causes de ce stress. Et du coup, ça amène des fois l'insomnie. Du coup, je réfléchis beaucoup la nuit, je ne dors pas de la nuit.
Aboubakar, vous avez le sentiment d'être insomniaque depuis cette convalescence dont vous parlez ?
Oui, oui, oui.
Donc vous avez eu, c'est suite à quoi, un accident qui vous est,
oui,
est arrivé cette insomnie ?
Bon, j'ai fait un accident de circulation, j'ai été fracturé du plateau tibial. Donc du coup, je suis très stressé. Et finalement, il y a des gens qui m'ont dit que c'est le stress qui retarde un peu ma consolidation. Donc il y avait des versions différentes, par-ci, par-là. Je ne dormais pas de la nuit jusqu'à présent. Donc, je voudrais des solutions, c'est pourquoi j'ai voulu participer à l'émission.
Professeur Antoine Pilisolo, Aboubakar a lui aussi des problèmes de nervosité, de stress, d'insomnie. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller ?
Alors là, il y a un point peut-être important qu'il faudrait voir avec votre médecin éventuellement, c'est si l'accident lui-même n'a pas provoqué ce qu'on appelle un stress post-traumatique, dans lequel, en fait, la personne, quand elle repense à l'accident, est nerveuse et a peur que ça revienne. Donc c'est souvent ça s'exprime souvent par des troubles du sommeil, parce que souvent on a des cauchemars la nuit où on revit les événements. Donc déjà, le point de départ pour Aboubakar, qui est un accident avec une fracture, peut-être que ça a provoqué quelque chose de plus ou moins conscient, parce qu'on n'en a pas toujours conscience sur le moment, mais d'une forme de reviviscence, comme on dit, de fait de revivre la scène traumatisante dans la mémoire et de manière très douloureuse. Donc ça peut être une première cause, et dans ce cas-là, il faut vraiment se faire aider sur comment dépasser ce traumatisme. Et il y a des petites choses qu'on peut faire par soi-même, que j'essaie aussi d'expliquer dans le livre, mais souvent une aide extérieure peut être intéressante. Et puis le deuxième point ensuite, c'est si ça rejoint la question du stress en général, parce que vous étiez déjà quelqu'un de nerveux un petit peu auparavant, il faut arriver malgré tout, vous dites que vous savez pas d'où ça vient, mais il faut arriver juste à déterminer, non pas la cause, mais au moins ce qui déclenche le stress sur le moment. Chaque fois que vous vous sentez mal, c'est-à-dire un peu tendu, un peu angoissé, juste d'essayer de faire un petit retour en arrière en disant mais qu'est-ce que je viens de faire et surtout à quoi j'ai pensé, parce que souvent c'est pas les éléments de la réalité qui comptent, c'est la manière dont on les perçoit. Donc par exemple quelqu'un qui vous a mal parlé, ou alors vous avez pensé à un rendez-vous que vous avez le lendemain ou je ne sais quoi, de remonter un petit peu le fil pour dire ah bah tiens, là dans ces cas-là j'ai identifié la cause de mon anxiété sur le moment et je vais essayer d'y répondre. Et là il y a plusieurs moyens d'y répondre, soit on trouve des solutions, soit on met à distance, ou alors j'ai pas encore trouvé et il faut que je creuse encore un petit peu plus. Donc ça, c'est un petit effort de mémoire souvent pour se remettre dans la situation qui a déclencher le stress initial.
Aboubakar, est-ce que vous avez d'autres questions à poser au professeur Antoine Pilisolo ?
Oui, j'ai d'autres questions à lui poser.
Allez-y, on vous écoute.
Par rapport à ma nervosité qui permet que je ne me comprends pas avec des gens, souvent j'ai réagi et après quelques secondes, quelques minutes, après avoir réfléchi, je regrette du coup. Je réagis mal, je parle mal aux gens.
Vous répondez de manière impulsive ?
Oui,
c'est ça. Oui, alors c'est aussi un signe de nervosité, le fait d'avoir besoin de se rassurer en répondant trop vite les choses, ou la force des émotions qui sont un peu trop vives. Donc ça rejoint un peu cette idée de tension nerveuse dans laquelle vous êtes, et je pense qu'il faudrait travailler sur cette tension nerveuse. Alors je vous disais tout à l'heure des méthodes de relaxation, de détente, ou d'avoir une petite activité physique malgré tout, parce que très souvent quand on a cette énergie en soi qui est liée à l'adrénaline et au stress, ça déborde à un moment donné sous forme comme ça de crise un peu de colère ou d'impulsivité, et il vaut mieux le réguler par exemple en faisant un petit peu d'activité. Alors peut-être que là vous êtes en convalescence et c'est difficile justement de pouvoir bouger ou d'avoir une petite activité, mais quelque chose de doux, hein. Ça peut être de la marche simple, un peu de nager éventuellement si vous pouvez, pour réguler un peu mieux cette tension interne.
Merci Aboubakar d'avoir appelé, et surtout bon courage à vous et bon rétablissement surtout.
Merci beaucoup.
Alors, on va marquer une courte pause. Vous restez avec nous, professeur Antoine Pilisolo. On se retrouve dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler des troubles psychiques qui nous dérangent parfois au quotidien. Et vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75.
Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Thierry Ndiaye.
Seconde partie de Priorité Santé consacrée aux troubles psychiques. Mieux se comprendre pour mieux se soigner, est-ce possible? Pour en parler, je suis toujours en compagnie du professeur Antoine Pellicelo, auteur de l'ouvrage « Vous êtes votre meilleur psy » aux éditions Flammarion. Alors les auditeurs sont nombreux à nous appeler concernant notre thématique du jour. On va prendre un auditeur en ligne de Brazzaville au Congo, Peignel. Peignel, bonjour, on vous écoute.
Bonjour, bonjour professeur.
Bonjour.
Voilà, mon problème est que je fais face à une certaine jalousie envers ma petite amie. Des fois, quand je la vois causer avec un autre garçon, ça me met en colère. Et surtout, quand je l'écris ou je l'appelle, qu'elle ne décroche pas. Et là, je suis un peu jaloux et ça me donne des idées. Voilà. Et je ne sais pas quoi m'aider à ce problème.
Alors, Peignel, le professeur va vous répondre. Professeur Antoine Pellicelo, les gens peuvent soigner cette jalousie dont Peignel parle, mais comment procéder?
Alors vraiment, là, déjà, Peignel, je dois vous dire que c'est très bien de pouvoir déjà le reconnaître et d'en parler, parce que le plus souvent, les personnes qui sont jalouses ou très jalouses, qui est là aussi quelque chose d'assez fréquent, ne le reconnaissent pas et sont dans ce qu'on appelle le déni un peu de ça. Et malheureusement, quand on est dans ce déni-là, on peut absolument pas le corriger. On peut encore moins le corriger que quand on commence à en avoir conscience. Donc la première chose, c'est d'en avoir conscience pour voir en quoi c'est excessif et en quoi ça pose problème dans vos relations, j'imagine, avec votre ami. Et puis, le premier point, c'est aussi de maintenir le dialogue avec elle. C'est-à-dire que souvent, quand on est jaloux, on a tendance à rester un petit peu renfermé et chacun reste un peu dans son coin et avec des reproches mutuels. Là, l'essentiel, c'est d'avoir un bon dialogue pour expliquer que peut-être vous avez tendance à être trop jaloux, à lui reprocher des choses ou à lui poser trop de questions, mais qu'au moins vous en avez conscience et que vous allez essayer de travailler dessus. Donc, pour maintenir un bon climat, parce que c'est la meilleure moyen quand même de garder une bonne relation avec votre ami. Et ensuite, le deuxième point, c'est d'essayer de comprendre en quoi, en vous-même, parce que le problème, il est évidemment plutôt en vous-même, on peut expliquer cette jalousie. Il y a deux choses en général, une mauvaise estime de soi-même, avoir l'impression qu'on ne mérite pas, par exemple, que l'autre reste avec soi, parce qu'on se reproche des choses, même si on n'en a pas conscience encore une fois tout de suite, ça peut demander un petit peu de travail d'exploration. Et puis, d'autre part, souvent des mauvais souvenirs de ce qu'on appelle des trahisons, c'est-à-dire quelqu'un qui, une ancienne relation qui s'est mal terminée parce que l'autre n'aurait pas été fidèle ou ne nous aurait pas tout dit. Donc souvent, on répète, on projette sur les autres un peu ce qu'on a déjà vécu auparavant. Donc déjà, si vous arrivez en vous-même à essayer de trouver ces deux aspects-là, pourquoi vous considérez pas assez à la hauteur, vous avez pas une bonne image de vous, et d'autre part, pourquoi vous ne faites pas confiance, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez éventuellement avoir comme séquelles d'une relation antérieure, et travailler dessus vous-même, parce que ça, c'est vraiment un travail personnel. Donc c'est un des chapitres qu'il y a dans mon livre. Et puis ensuite, malgré ça, de garder une bonne relation avec votre amie en essayant le maximum d'écouter ce qu'elle vous dit. Parce que très souvent, on pose plein de questions. Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu parles? Pourquoi tu n'étais pas là à tel moment? Et puis on n'écoute pas la réponse parce que d'emblée, on considère qu'elle a tort. Et ça, malheureusement, ça ne fait qu'envenimer les choses parce que d'une part, ça énerve l'autre. Et à un moment où il finit par être très, on va dire, rejetant quasiment dans ces cas-là. Et puis en plus, on n'entend pas les réponses et on n'arrive plus à savoir quelle est la réalité. On est enfermé un peu dans ses propres réflexions qui sont souvent biaisées, en tout cas, ou parfois complètement fausses.
Peignel, merci d'avoir participé à notre émission. Est-ce que vous êtes un peu plus éclairé concernant cette jalousie?
Oui.
Merci à vous, Peignel. Nous Nous rejoignons au Cameroun Dr Félicien Tonnet, psychiatre et pédopsychiatre au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Il est également le directeur adjoint du CHU de Yaoundé. Dr Tonnet, bonjour. Allô? Allô, Dr Tonnet? Bon, visiblement, Dr Tonnet n'est pas encore en ligne avec nous. Alors, on va, en attendant, vous poser une question à vous, professeur Antoine Pellissolo. On va prendre un autre cas que vous décrivez, par exemple, dans votre livre. On a autour de nous des gens qui ont peur de l'avion. Il y a même des compagnies aériennes qui proposent des stages pour lutter contre cette phobie. Que conseillez-vous à ce sujet?
Alors, la phobie de l'avion, là aussi, quelque chose de fréquent. Alors, je commence dans mon chapitre en disant que c'est quasiment normal d'avoir peur de l'avion et que c'est étonnant que tout le monde n'ait pas peur de l'avion. Parce que être dans un tube en métal dans le ciel et qui tombe pas tout d'un coup, ça peut paraître surprenant. Alors on est tellement habitué à ce que l'avion fonctionne que la plupart des gens n'ont pas peur, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur des accidents, qui ont peur de rester coincé quelque part. Donc c'est souvent des claustrophobes, donc qui ont peur aussi de prendre l'avion. Alors la bonne méthode, comme pour toutes les phobies, en fait, c'est de s'habituer. S'habituer d'une part à l'idée de prendre l'avion, et ça je conseille beaucoup maintenant de regarder beaucoup des vidéos, de regarder des documentaires sur l'aviation pour en fait se rassurer avec l'idée que un avion ça marche.
Mais souvent dans les reportages justement c'est le contraire, on va nous montrer des crashs.
Alors ça il vaut mieux éviter de se focaliser là-dessus, même si évidemment les accidents surviennent et on est très marqué parce qu'il suffit d'avoir vu une fois quelque chose de dramatique pour considérer que c'est insupportable. Mais là il y a une erreur de jugement en général, c'est que au plan statistique, c'est pas parce que ça arrivait une fois que ça arrive souvent. Et ça arrive beaucoup moins souvent que, on sait bien, les accidents de la route ou que d'autres moyens de transport. Donc il faut plutôt se documenter sur comment ça marche, pourquoi un avion vole, comment le personnel est formé, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de petite problématique, pour pouvoir en fait être préparé à ça avant d'y aller pour de bon. Alors après, c'est vrai que pour y aller pour de bon, il vaut mieux le faire par étapes aussi. Par exemple, passer quelques heures à l'aéroport avant le jour du vol, par exemple, pour s'habituer. On peut pas s'habituer à rentrer dans l'avion et à ressortir, ça marche pas, sauf avec effectivement ces stages de certaines compagnies. Mais il y a vraiment cette préparation, et puis ce qui rejoint avec ce que je disais tout à l'heure sur le stress, la relaxation. Quand on est dans l'avion, on n'a rien à faire en général, donc il faut soit prévoir quelque chose pour s'occuper, soit avoir une méthode pour se détendre au lieu de cogiter sur tout ce qui va mal se passer. Là, en général, on peut pas contrôler la situation, c'est pas notre travail de piloter l'avion, et il faut trouver des choses pour s'occuper de manière plus sereine.
Pensez à autre chose finalement.
Tout à fait.
On va rejoindre de nouveau le docteur Félicien Tonnet qui nous écoute du Cameroun. Il est psychiatre et pédopsychiatre au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Docteur Félicien Tonnet, bonjour. Non, il ne nous entend pas. Docteur Tonnet, bon. Alors, on verra peut-être la réaction du docteur Tonnet autour de toute cette discussion un peu plus tard. J'aimerais prendre d'abord un auditeur qui va nous expliquer alors une autre pathologie dont il est atteint. Il s'agit de Samedi qui nous appelle en direct de N'Djamena au Tchad. Samedi, vous nous entendez?
Bonjour.
Oui, on vous entend.
Bonjour à l'invité, bonjour mon professeur Antoine. C'est Samedi avec N'Djamena au Tchad.
Alors, je vais résumer un peu parce qu'on n'entend pas très bien. Samedi a des difficultés à gérer sa colère. Il s'énerve un petit peu vite. Il lance parfois des mots choquants quand quelque chose ne lui plaît pas. Il l'insulte même. Professeur Pellissolo, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller pour un petit peu gérer mieux cette colère dont il parle.
Alors souvent la colère est un phénomène de, je dirais, d'auto-renforcement, c'est-à-dire que on a tendance à repousser le moment où on va s'exprimer en pensant que ça va passer, et très souvent ça bouillonne et on s'exprime trop tard. Donc le premier conseil, c'est d'essayer d'exprimer ce qu'on ressent vis-à-vis des autres, et très souvent ça part d'une forme de mécontentement ou une forme de frustration, avec des mots plutôt qu'avec le comportement, comme ça, avec des réactions trop forte, c'est-à-dire en exprimant pourquoi on n'est pas content, qu'est-ce qu'on reproche aux autres, qu'est-ce qu'on voudrait changer, parfois même en s'affirmant, parce que souvent on gère mal sa colère quand on est quelqu'un d'un petit peu renfermé, d'un petit peu timide, et on attend le moment où on peut plus du tout tenir pour exploser. Et donc dire les choses avant, par exemple dire son mécontentement sur une situation, refuser de rendre un service parce que on considère que c'est pas justifié sur le moment, ça permet de désamorcer les choses. Donc prendre les devants, s'exprimer avec des mots plutôt qu'avec le comportement. Et puis ensuite, il y a une autre tendance qui sous-tend c'est la colère, c'est le tempérament, d'avoir un tempérament un peu trop vif et trop, on va dire, impulsif.
Donc c'est un peu naturel peut-être pour le cas de
pour certaines personnes, voilà. Et donc dans ces cas-là, il faut aussi apprendre à mieux gérer ses émotions. On peut le faire avec des méthodes comme la méditation, par exemple, qui permettent de mettre un petit peu à distance les émotions, ne pas vouloir les fuir à tout prix, parce que les émotions sont des éléments de la vie normale, comme la peur, la tristesse et la colère, mais en essayant de les intégrer à son ressenti général, se dire, bon, bah, c'est un indicateur de quelque chose, si je ressens de la colère, c'est qu'il y a quelque chose dans ma tête qui se passe mal ou qui a mal perçu les choses, donc je vais l'écouter, je vais attendre qu'elle passe, parce que très souvent, les émotions, elles passent si on ne les refuse pas complètement, si on arrive à les accueillir.
Samedi, est-ce que vous avez déjà tenté la méditation pour essayer de contrôler votre colère?
Oui, j'ai bien compris, monsieur le professeur Antoine. Mais écoutez, madame, je voudrais poser une question à monsieur Antoine.
Oui.
Après mon commentaire dans votre page, il y a un gars qui m'avait dit que n'oubliez pas que tu es un cadet de sang. Est-ce que le professeur Antoine vous valide sa parole?
Alors, j'ai mal compris votre dernière phrase. Cet ami vous a dit, j'ai pas compris.
Ok, je disais, il y a un gars qui m'avait répondu sur Facebook, n'oubliez pas que tu es un cadien de sang. Est-ce que vous validez sa parole?
Alors, on n'entend pas très bien ce que vous dites samedi. Est-ce que vous pouvez nous répéter?
Ok, il y avait un problème de réaction là. Je disais, en bas de mon commentaire sur votre page Facebook, il y a un gars qui m'avait répondu que n'oubliez pas que tu es un cadien de sang. Est-ce que vous comprenez sa phrase?
Si un Tchadien descend. Bon, alors il semble y avoir un problème de ligne. On tentera de répondre à votre question sur notre page Facebook, justement. On vous enverra un petit message pour comprendre davantage votre question parce qu'on ne vous entend pas très bien. On va prendre Ali en ligne qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour Ali.
Oui, bonjour Madame Gagne.
Bonjour Ali, on vous écoute.
Bonjour professeur et à toute l'équipe de Priorité Santé.
Bonjour.
Donc, je disais dans mon commentaire, de la fois passée que face aux conditions difficiles de mes parents, ceux-ci m'ont poussé à très tôt à passer des concours afin que nous puissions sortir de cette situation, la pauvreté, et subvenir à nos besoins. Voilà. Donc d'échec en échec, vraiment, je n'arrive pas à me ressaisir. Auparavant, j'étais quelqu'un qui était ouvert, qui aimait s'exprimer, jovial. Mais de nos jours, je suis devenu quelqu'un timide, peu bavard, trop pensif, soucieux et surtout renfermé sur moi-même.
Alors Ali, est-ce que vous avez... Oui, allez-y, continuez Ali. Allez, on vous écoute.
Voilà. Donc, je suis quelqu'un de renfermé. Voilà, moi-même, mon entourage me l'a signifié.
D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être eu un début de ce changement? Est-ce que vous avez peut-être une date à nous communiquer ou un événement qui s'est passé autour de vous ou même qui vous est arrivé qui a peut-être justifié ce changement?
Bon, évidemment, ce sont ces échecs-là. Les échecs, quand je fais des concours, ça ne marche pas. Rien ne marche pour moi, quoi. J'essaie, mais rien ne marche pour moi.
Alors, professeur Antoine Pellissolo, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Ali qui finalement semble souffrir d'une certaine timidité et d'un problème d'estime de soi?
Oui, et avec probablement peut-être des éléments de dépression là qui sont déclenchés par ces échecs. Alors bon, la dépression, si jamais elle est vraiment trop forte, trop intense et très pénible, ça peut justifier de consulter un un professionnel. Mais sinon, pour combattre ce sentiment dépressif, il faut absolument sortir de ce cercle vicieux où on réussit pas les choses et on finit par se décourager et ne plus les faire. Et donc, il faut garder à tout prix quelques activités plaisantes qui sont, même si c'est pas productif sur le moment, c'est pas réussir le concours tout de suite, c'est pas réussir à travailler comme on le voudrait, mais au moins des choses que l'on arrive à maîtriser. Donc, ça peut être des loisirs, éventuellement, ça peut être des activités collectives avec d'autres personnes, même du sport ou des choses comme ça de culturelles, pour pouvoir se sentir capable et ne pas, je dirais, ruminer des choses négatives, parce que je vous disais, sinon, on fait de moins en moins de choses et donc on s'en veut encore plus. Donc, il faut trouver des moyens d'agir, de sortir de la, je dirais, du cercle vicieux de l'échec, pour pouvoir ensuite reprendre confiance en soi, parce que vous avez des qualités, vous en aviez avant, vous les avez pas perdues, simplement là, vous voyez plutôt les aspects négatifs, c'est un peu des lunettes noires, comme on dit, pour transformer la réalité, et il faut juste forcer à voir ce qu'il y a de positif par ailleurs. C'est pas toujours simple, mais plutôt que de faire une espèce de méthode Coué négative en disant je suis pas bon, je suis mauvais, etc., il faut à tout prix voir les choses positives, parce qu'il y en a forcément, et c'est surtout comme ça qu'on va en sortir, parce qu'on va pouvoir reprendre confiance en soi en ayant réussi des petites choses au début, et puis de plus en plus importantes. Il faut accepter un peu cette progressivité, cette segmentation un petit peu des objectifs.
Merci Ali pour votre témoignage en direct de Ouagadougou au Burkina Faso. On a d'autres auditeurs, ils sont nombreux à nous appeler aujourd'hui. On a également Ozana qui nous appelle de Baké au Tchad. Ozana, bonjour.
Bonjour madame et bonjour au docteur.
Bonjour.
Ozana, on vous écoute.
Oui, moi je suis vraiment très attaché à mon smartphone, au point que même quand je suis avec les amis et autres, tout ce qu'ils font n'attire pas mon attention. Je ne me préoccupe pas de ce qui se passe autour de moi. Mon souci, c'est sur ce que je fais sur mon téléphone. Par exemple, les vidéos et les images que je regarde, les mails que je reçois. Et cela fait que même à la maison, je n'ai pas de temps pour discuter avec mes cousins et mes cadets. Et ils sont vraiment mécontents. J'ai l'impression d'être esclave de mon téléphone. Alors, j'aimerais savoir quelles conséquences cela peut avoir sur ma personne et comment je peux faire pour réduire le temps d'utilisation et m'occuper d'autres choses.
Professeur Pellissolo, Antoine Pellissolo, Ozana a évoqué des termes très intéressants et qui semblent concerner pas mal de monde, cette espèce d'accro d'hypocondrie numérique où on a l'impression qu'on est constamment sur son téléphone. Lui, il parle même d'esclave, il se sent esclave de son téléphone.
C'est une dépendance qu'on a tous quasiment de plus en plus, parce que au départ ce sont des outils assez fabuleux, faut le dire quand même, qui donnent accès à plein d'informations, à plein de choses positives, et là aussi il y a un piège, c'est-à-dire que on se sent tellement en sécurité et intéressé par ce qu'on va voir dans l'écran ou en quel qu'il soit, ça peut être d'autres supports, mais notamment le smartphone parce qu'on l'a toujours sur soi, que finalement on se coupe du reste, et les conséquences, comme vous disiez, c'est beaucoup vis-à-vis des autres, dans les relations aux autres. Donc et c'est déjà bien, et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, de s'en rendre compte, parce que de se dire oui, effectivement j'ai un problème, de reconnaître qu'on a un problème. Et vis-à-vis des écrans, moi je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut en gros se fixer des règles très précises. C'est comme quand on a tendance à trop manger ou à trop boire. Il faut tout faire pour ne pas avoir l'objet de la tentation sous la main, on va dire. Parce que quand on l'a sous la main, c'est toujours la facilité, c'est d'y avoir recours. Donc la bonne solution, c'est de s'éloigner de l'objet. Et donc le téléphone, je pense qu'à des moments, vous pouvez tout simplement l'éteindre, couper complètement, voire ne pas l'avoir avec vous. Alors c'est dur, parce que maintenant on n'est plus du tout habitué, mais il faut faire un peu violence au début. Vous pouvez sortir, je sais pas, une heure sans votre téléphone par exemple, et vous allez voir que finalement vous serez beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour de vous. Vous allez pouvoir vous reconnecter cette fois avec vous-même, et pas avec Internet et avec les autres, et petit à petit comme ça vous donnez des plages où vous pouvez faire une rupture. Et ça veut pas dire de jeter votre téléphone à la poubelle, évidemment, c'est pas en tout ou rien, mais d'avoir au moins des périodes où vous testez le fait de pas l'avoir. C'est une façon de vous mettre en situation.
Alioune parlait aussi des conséquences. Est-ce qu'on pourrait peut-être insister sur ce point, les conséquences sur cette hypocondrie numérique où on semble accro à nos téléphones aujourd'hui?
Alors, les conséquences, c'est vraiment de se couper un peu des autres. Hein. Alors, même quand on est avec d'autres personnes, ce que disait Ozana, c'est que tout le monde regarde son smartphone et on se parle plus en direct. Donc, sur le plan des rapports humains, des rapports amicaux, c'est quand même très problématique. Et puis, la deuxième chose, c'est que on est habitué à être en permanence sur plusieurs choses en même temps. Quand on fait ça, on a une attention qui se fixe à la fois sur son téléphone, à la fois sur ce que disent les gens, à la fois sur ce qu'on doit préparer pour la suite. Et ça, malheureusement, c'est vrai surtout chez les enfants. C'est assez problématique pour les capacités d'attention parce qu'on se fixe en fait que sur ce qui paraît le plus intéressant et donc on perd l'habitude de se focaliser sur des choses un petit peu plus ennuyeuses. Alors ça, notamment à l'école ou dans le travail. Donc malheureusement, une des conséquences, c'est d'abîmer en tout cas certaines formes d'attention. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer par moment de s'en éloigner le plus possible et d'avoir une hygiène, on appelle ça comme ça, une hygiène attentionnelle plus saine, on va dire.
Ozana, vous avez compris, hein, il faut un peu décrocher et poser ce téléphone, l'éteindre parfois dans la journée pour un petit peu retrouver un peu ce côté social avec les gens. Merci de nous avoir appelé, Ozana. Docteur, professeur Antoine Pellissolo, revenons sur la question peut-être du traitement. Les malades attendent souvent des médicaments pour s'en sortir, pour guérir, hein, en tout cas pour les troubles plutôt physiques. Vous conseillez la méthode PSL. En quoi consiste-t-elle?
Alors, PSL, c'est un petit moyen de se souvenir de quelque chose qui marche bien pour les phobies. Toutes les phobies, en fait, ou toutes les peurs quasiment, ou l'anxiété, s'aggravent quand on s'éloigne de l'objet de la peur. Et en gros, quand on a peur de quelque chose, on essaie de l'éviter. Et plus on l'évite, plus on a peur. Donc, il faut rompre ça. Et donc, les mots qu'il y a derrière PSL, c'est de se confronter aux choses à la fois progressivement, souvent, de manière répétée, et longtemps. Donc PSL, c'est progressivement, longtemps et souvent, pour pouvoir se réhabituer à faire face aux objets qui sont en fait pas dangereux, puisque ce sont, quand on parle de phobie, c'est que c'est des peurs irrationnelles, pour que l'organisme s'habitue petit à petit à cette peur.
Quand doit-on avoir un recours aux médicaments, finalement?
Alors, c'est une question difficile parce que il faut un diagnostic, quand même, théoriquement. Donc, on peut consulter un médecin ou un professionnel quand on se sent un peu dépassé par les choses, quand on a essayé des méthodes naturelles et que ça ne fonctionne pas, ou que l'on est dans une situation de crise. Et là, c'est le professionnel qui dira si le médicament est un bon recours pour à la fois être efficace sans être trop gênant ou trop toxique, parce que le problème, c'est souvent qu'il y a des effets secondaires, et donc il ne faut prescrire que lorsqu'on pense que c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment, encore une fois, plutôt dans les dépressions sévères que c'est justifié. Pour le stress ou l'anxiété, c'est souvent pas des bonnes solutions.
Une dernière question, peut-être pour un conseil, est-ce qu'il y a des facteurs alimentaires et toxiques qui pourraient aggraver nos troubles psychiques? Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier, par exemple?
Alors, c'est peut-être pas un aliment, mais en tout cas une alimentation, alors pour simplifier, qui est saine, c'est-à-dire qui limite tout ce qui est le sucre en excès, les gras en excès, fait plutôt du bien au cerveau pour, en gros, avoir un bon métabolisme du cerveau, et donc fait du bien aux émotions et aux aspects psychologiques.
Merci beaucoup, professeur Antoine Pellissolo, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes médecin professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Est Créteil. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage « Vous êtes votre meilleur psy » aux éditions Flammarion.
Priorité santé sur RFI.
La France a maintenu son opposition à l'utilisation du glyphosate, la principale substance active de l'herbicide le plus utilisé au monde. Le Roundup est controversé. Son impact serait pour certains nocif sur l'environnement et la santé humaine. Pour en parler, docteur Pierre-Michel Perrineau est en ligne avec nous. Il est le président de l'association Alerte des médecins sur les pesticides à MLP. Docteur Pierre-Michel Perrineau, bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce glyphosate? Qu'est-ce que c'est?
D'abord, il faut d'abord se rappeler ce que c'est que le glyphosate. C'est la matière active, on va appeler ça comme ça, dans toute une gamme d'herbicides, c'est-à-dire de produits conçus pour tuer ce qu'on appelle à tort ou à raison des mauvaises herbes. Et pour ce faire, le glyphosate sera mélangé à des coformulants. Et donc c'est le plus célèbre des produits qui est ainsi réalisé, c'est le Roundup, hein, tout le monde en a entendu parler. Le Roundup, c'est la pierre angulaire de Monsanto, cette multinationale qui le commercialise, et qui commercialise aussi les OGM. Et donc c'est dire si les enjeux financiers derrière ce problème sont énormes. L'herbicide Roundup, ça va être celui que l'on retrouve le plus dans nos cours d'eau. Donc voilà, en quelques mots, présenter
le glyphosate. Et selon vous, ce glyphosate est justement dangereux pour la santé, mais quels sont les indices qui l'accablent?
Alors, pour savoir pourquoi il est dangereux sur la santé, d'abord, il y a deux choses. J'ai parlé de glyphosate mélangé à des coformulants qu'on va retrouver dans toute une gamme d'herbicides, dont la plus célèbre est le Roundup. Ce qu'il faut savoir, c'est que les scientifiques se posent des questions sur les deux, c'était à la fois sur le glyphosate et à la fois sur les coformulants, à tel point que l'ANSES en a retiré un qui était célèbre et qui va permettre de retirer quelques formulations en début d'année prochaine, mais on pourra en reparler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concernant l'évaluation du glyphosate lui-même? Il s'est passé deux avis, en fait. Et c'est pour ça qu'on a des raisons de penser que la santé publique n'a pas été écoutée dans cette histoire. Le premier avis, il a été rendu par le CIRC, qui est le Centre international de recherche contre le cancer. C'est un organisme affilié à l'OMS et qui, depuis 40 ans, rend des expertises sur des substances chimiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il fait toujours. C'est-à-dire, il s'est demandé sur l'animal, d'abord, si ce produit était dangereux.
Et surtout là, pour l'humain, il était... parce qu'il nous reste très peu de temps. Quel message vous souhaitez lancer, finalement, docteur Pierre-Michel Perrineau? Il nous reste... Vous avez 30 secondes.
Le message qu'on souhaite faire passer, c'est que... il faut se reporter... Enfin, dans cette histoire du glyphosate, on a privilégié le point de vue de l'industrie qui a fourni un certain nombre de tests qu'elle réalise elle-même. Ces tests ne sont pas consultables pour des contre-expertises. Donc on a le choix de faire le... qu'est-ce qu'on nous demande? De faire confiance à un système opaque qui dit que le glyphosate n'est pas dangereux. Alors de l'autre côté, on a une expertise scientifiquement réalisée par le CIRC et qui nous répond, oui, le glyphosate est cancérigène.
Merci.
Certain pour l'animal et probable pour l'homme.
Probablement pour l'homme. Merci à vous, docteur Pierre-Michel Perrineau. Je rappelle que vous êtes président